Voilà, merci Seigneur de nous rassembler ce soir ici. Pour certains, c'était plus difficile d'arriver jusqu'ici. Merci Seigneur, parce que nous sommes maintenant avec toi. Nous sommes heureux d'être avec toi, Seigneur. Nous sommes heureux parce que nous savons que tu es là, tu nous regardes, tu nous attendais et tu prends soin de nous, Seigneur. Nous le croyons. Nous avons confiance en toi. Tout à l'heure, Thibaut, c'était tous ces saints que nous avons fêtés ces temps-ci. Aujourd'hui, nous fêtons aussi Sainte Faustine, qui nous apprend à dire simplement avec Jésus, comme Jésus lui a appris, « Jésus, j'ai confiance en toi ». Dire simplement à Jésus, « J'ai confiance en toi », parce que, de fait, la confiance, c'est ce qui nous relie à Jésus. Et la confiance, elle manque parfois dans notre cœur. Et le fait de le dire, ça nous permet de poser cet acte de foi qui nous relie à Jésus. Merci, Seigneur. Alors ce soir, je suis heureux d'accueillir le Père Pascal avec un groupe de Clermont-Ferrand qui est venu. Donc soyez bienvenus, vous tous qui viennent de Clermont-Ferrand. Nous allons vraiment continuer cette prière avec le Seigneur en écoutant sa parole. Il y a 2000 ans, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait et il guérissait. Et ben, nous allons faire la même chose ce soir. On va commencer par enseigner dans la grâce du Christ et puis ensuite le Seigneur lui-même accomplira ses œuvres de salut parmi nous. De l'Évangile selon saint Marc, au verset 29. Et aussitôt, sortant de la synagogue, Jésus vint dans la maison de Simon et d'André avec Jacques et Jean. Or la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Aussitôt, il lui parle à son sujet. S'approchant, il la fit se lever en la prenant par la main. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, quand fut couché le soleil, on lui apportait tous les malades et les démoniaques, et la ville entière était rassemblée devant la porte. Et il guérit beaucoup de malades atteints de divers maux et il chassa beaucoup de démons. Il ne laissait pas parler les démons parce qu'il savait qui il était. Alors ce récit au début de l'évangile de Marc, c'est la première journée de mission de Jésus à Capharnaüm, cette grande ville au bord du lac de Galilée, où le Seigneur commence sa mission. D'abord à la synagogue, en libérant une personne possédée, puis il va à la maison de Simon et d'André, qui est à Capharnaüm. Il va dans leur maison. Cette maison, la maison de Simon, ça symbolise d'une certaine manière l'Église. L'Église, c'est la maison de Pierre. C'est la maison qui a été confiée à Simon-Pierre. Donc cette maison de Simon et d'André symbolise quelque part déjà l'Église. Et avec eux, il y a aussi Jacques et Jean. Donc le Seigneur s'attend peut-être à ce qu'on lui prépare un bon repas, sauf que la belle-mère de Simon, peut-être que celle qui faisait le repas, elle est au lit. Elle est au lit. Donc elle a de la fièvre, elle ne peut rien faire, elle est clouée au lit. Et aussitôt, lit-on, c'est-à-dire j'imagine Simon et André, il parle à Jésus de la belle-mère de Simon. Remarquez qu'ils ne font que parler à Jésus. Ils ne lui demandent pas de la guérir. Ils lui disent, tu vois, on n'a pas pu te préparer un repas parce que voilà, la belle-mère de Simon est malade. Ou alors, Seigneur, nous te la présentons, comme on peut faire dans la prière. Seigneur, nous te présentons telle personne. Prends soin d'elle. Et c'est une belle manière de dire simplement à Jésus, voilà Seigneur, je te présente telle situation, telle personne, en le présentant les choses ainsi comme Marie fera elle-même à Cana. Ils n'ont pas de vin, bien on ouvre vraiment la porte pour que le Seigneur fasse ce qu'il veut. Alors évidemment, quand il parle à Jésus de la belle-mère de Simon, ils ont certainement une petite idée derrière la tête. Ils se disent, s'il pouvait la guérir, ce serait sympa. Mais n'empêche qu'il laisse le Seigneur agir comme il veut. Et alors Jésus fait quelque chose de très simple, il s'approche de cette femme et il la prend par la main pour lui permettre de se relever. Et en la prenant par la main, eh bien, il la guérit en même temps. Vous voyez la simplicité du geste. Le Seigneur ne fait pas comme les guérisseurs à l'époque et encore certainement aujourd'hui. Vous voyez, il fait plein de trucs, plein de signes pour en mettre plein la vue à tout le monde, pour bien montrer qu'il y a quelque chose d'important qui se passe et pour bien convaincre les personnes présentes qu'il se passe quelque chose de fort. Le Seigneur il prend simplement la main de la personne, il la relève C'est comme si elle n'avait jamais été malade. D'ailleurs, elle s'était peut-être demandé est-ce que j'étais vraiment malade, tellement c'était simple, la guérison. Vous voyez, il la relève simplement. C'est intéressant ce terme relever, parce qu'il la lève, la relève. C'est le même mot que Marc utilisera pour dire que le Seigneur est ressuscité. C'est relevé d'entre les morts. Et quand on guérit d'une maladie, c'est vrai que c'est un peu comme une résurrection. Quand on est malade, c'est un peu comme une mort à soi-même. Et quand on guérit, c'est une forme de résurrection. Ce n'est pas la résurrection éternelle. Et ce qui compte pour nous, c'est d'obtenir la résurrection éternelle. Quand on est guéri sur cette terre, de toute façon, on mourra un jour d'une autre maladie ou de quoi que ce soit, ou de vieillesse. Mais ce qui nous importe le plus, c'est la vie éternelle. Mais, voilà, le Seigneur pose quand même cet acte de bonté, d'amour, pour montrer qu'il a le souci de nos souffrances, qu'il n'est pas indifférent à cette belle-mère qui a de la fièvre. Et donc cette fièvre la quitte immédiatement quand Jésus la relève sans parole. Un peu comme dans cette prière des malades, parfois il y a des paroles de connaissance pour annoncer des guérisons, et parfois certaines personnes sont guéries sans qu'il y ait de paroles de connaissance. Mais la pointe de ce récit, c'est le dernier verbe. C'est qu'il est dit qu'ensuite elle les servait. Autrement dit, cette femme qui était alitée, une fois qu'elle est guérie, elle se met à servir, elle se met au service des autres. Et ça, c'est vraiment magnifique, parce que le Seigneur veut nous faire passer, c'est quelque chose qu'on retrouve déjà dans l'Exode, de la servitude au service, la servitude de la maladie au service des autres. Quand on sert les autres, c'est librement par amour de Dieu. Quand on est dans la servitude, c'est quelque chose qu'on subit. Voilà. Quand le Seigneur tire son peuple d'Égypte, il fait passer de la servitude pour aller le servir sur la montagne, comme Moïse dira au Pharaon, nous devons sortir pour aller adorer Dieu sur la montagne. Et donc, le Seigneur nous invite nous-mêmes à lui dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tu as fait telle chose pour moi, tu m'as guéri de telle chose, que veux-tu que je fasse pour toi? Peut-être qu'on ne peut rien faire, parce que précisément on est malade pour l'instant, si ce n'est offrir sa maladie, et c'est énorme, parce que c'est peut-être plus que tout ce que les autres peuvent faire. Offrir ses souffrances, c'est peut-être qu'il y a de plus important, de plus fort comme acte d'amour. Mais si on va bien, on peut dire au Seigneur, surtout si on a reçu des grâces, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, ne me laisse pas comme quelqu'un qui est un passif dans l'Église. Fais de moi quelqu'un qui participe à la mission de l'Église dans ma paroisse. Qu'est-ce que je peux faire pour aider le curé? Qu'est-ce que, dans les associations, est-ce que je peux m'engager? Avec mon voisin, est-ce que je peux le servir, lui rendre service? Voilà. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Si on n'est pas en mission, on ne se sent pas vraiment en mission pour servir les autres d'une manière ou d'une autre, on n'est pas encore vraiment chrétien. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui reste assis sur sa chaise et qui attend que ça passe. C'est quelqu'un qui est en mission, même en mission d'offrande de sa vie au Seigneur, ou en mission d'offrande de service vis-à-vis des autres. Et le soir venu, c'est ces deux miracles que Jésus a fait, de libérer ce démoniaque et puis de guérir la belle-mère de Pierre, ça se répand dans toute la ville de Capharnaüm. Et alors on lui amène tout le monde, parce que les gens ont compris qu'il avait un pouvoir. Ils n'ont pas compris qu'il était le Fils de Dieu, certainement. Ils ont compris qu'il avait un pouvoir divin. Et tout le monde arrive, et le Seigneur, dans son amour, à partir du seuil de la porte, il est devant la porte de cette maison qui symbolise l'Église, il guérit une multitude de personnes, il libère une multitude de personnes, comme il veut le faire aussi ce soir. Le Seigneur va continuer ce soir son œuvre de guérison et de libération si, comme nous le demande Sœur Faustine, nous mettons notre confiance en lui. Alors ce soir, je vais aussi demander à Émilie de venir témoigner. Et Émilie m'a proposé de venir témoigner. Ce qui m'intéressait, c'est que son témoignage colle bien au texte que nous avons entendu. Donc je suis très heureux qu'elle me propose ce témoignage, alors que moi j'avais déjà l'intention de donner ce texte. Donc tout colle bien avec le Seigneur.
Bonsoir à tous. Bonsoir. Pour me présenter en quelques lignes, je m'appelle Émilie, je suis originaire de l'île de La Réunion et j'ai eu 30 ans le 1er septembre dernier. J'ai été élevée par ma mère, grâce à laquelle j'ai pu recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne, baptême, eucharistie et confirmation. Très pieuse, elle m'emmenait partout où elle allait, messe et pèlerinage, ce qui a alimenté ma foi en l'existence de Dieu. Cependant, je ne comprenais pas grand-chose à cette ferveur à l'époque. Je priais machinalement quand ça n'allait pas, et lorsque tout rentrait dans l'ordre, je mettais cette foi de côté, sans toutefois l'oublier. C'est seulement il y a 2 ans, en février 2015, que j'ai été touchée par cette parole de Dieu qui dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Jean 3, versets 14 à 17. Cette parole vivante est venue parcourir mon être tout entier et sécher mes larmes. Je suis libérée, rachetée, délivrée, pardonnée. J'ai assisté à de nombreuses prières des malades depuis le début de l'année 2017 et cela m'a fait beaucoup de bien. Petit à petit, le Seigneur a apaisé mes peines. Je ressortais toujours de cette prière remplie de la paix et de la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Un jeudi du mois de mars, après la prière des malades, j'ai fait la rencontre des jeunes missionnaires de Paray-le-Monial et depuis, je ressentais l'appel du Seigneur pour la prière de guérison et l'évangélisation de rue. Je me suis donc rendue à Paray-le-Monial pour me renseigner sur l'école dont faisaient partie ces jeunes. J'ai ensuite participé cet été à une mission d'évangélisation en bord de mer avec la fraternité missionnaire Jean-Paul II, ce qui a confirmé cet appel que j'avais reçu au fond de mon cœur à Saint-Nicolas-des-Champs. Après avoir dit oui pour vivre une année pour Dieu, l'on me propose d'emblée de partir pour New York, dans une école de la communauté de l'Emmanuel qui s'appelle l'ESM. Opportunité que j'ai accueillie avec une grande joie. Pour vous parler de l'ESM, c'est une école catholique internationale de formation et d'évangélisation qui repose sur quatre piliers. La prière, la louange, adoration et messe tous les jours, la formation, cours de théologie, d'éthique, de liturgie, de l'écriture sainte, des religions, de la doctrine sociale de l'Église, de philosophie et de formation humaine, la vie fraternelle, entre 20 et 30 étudiants venus du monde entier, et la mission, dans les paroisses, les universités et les écoles. Elle nous forme spirituellement et humainement et nous apprend à être des chrétiens dans le monde. Et pour ce qui est d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, aux personnes qui ont besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu, l'Esprit Saint est à l'œuvre en chacun de nous. Je rends grâce à Dieu d'avoir guéri mes plus profondes blessures et de m'avoir comblé au plus haut point. Comme nous disait Paul en 2 Corinthiens 5, 14, l'amour de Christ nous presse. Je m'envole donc dès ce dimanche pour la rentrée de l'école qui se fera à Rome, puis nous irons à New York début novembre. Voilà, je vous remercie pour votre attention et mes remerciements vont en particulier au Père Thierry qui m'a donné l'opportunité de partager cela avec vous. Et je remercie également mes amis du groupe Plénitude qui sont présents ce soir et qui ne savaient pas que j'allais témoigner. Merci pour votre soutien et merci à tous de m'avoir écouté. Soyez bénis au nom de Jésus.
Voilà, je voulais vous faire entendre ce témoignage d'Émilie parce qu'elle n'a pas eu de guérison physique spectaculaire, mais le Seigneur l'a guérie dans son âme. Et maintenant, elle devient missionnaire. Et il y a beaucoup de gens ici qui n'ont pas forcément eu des guérisons spectaculaires, mais qui reçoivent de la paix comme elle, qui vont mieux, qui ensuite peuvent être témoins du Seigneur. Alors maintenant, je vais vous donner quelques d'autres témoignages de guérison rapidement. Oda est venue témoigner qu'au printemps 2016, elle était au lit depuis 2 semaines à cause de sa colonne vertébrale, tassement des lombaires et déformation. Elle est venue à la prière des malades, une parole de connaissance annonçait que le Seigneur guérissait le bas du dos d'une personne. Et cette parole l'a guérie, depuis elle ne souffre plus du tout. On lui a fait un IRM quelques jours après, et l'IRM a manifesté que son dos était redevenu normal. Et le médecin, voyant la différence avec l'IRM précédent et sachant qu'elle est croyante, lui a demandé « Quel saint êtes-vous allé prier ?» Guylaine est venue témoigner qu'elle était guérie instantanément du symptôme de la bouche sèche pendant la prière des malades, donc elle avait la bouche sèche, elle était guérie instantanément. Emmanuel avait des brûlures à l'œsophage depuis 3 semaines. C'est difficilement tenable, et lui qui était très actif était abattu par une telle souffrance. Ses brûlures s'ajoutaient à une hernie hiatale qu'il avait déjà. À ce moment-là, une amie d'Agnès, sa femme, a proposé à sa femme de venir à la prière des malades. Celle-ci en parle à son mari qui ne lui dit pas s'il viendra, sachant qu'il avait lui-même pris un peu de distance avec la foi. Le jeudi, à 17h, elle envoie un SMS à son mari qui lui dit qu'il viendra finalement, donc il se décide au dernier moment à venir. Mieux vaut tard que jamais. La première parole connaissance donnée ce jour-là concerne des problèmes de brûlure à l'œsophage, et le lendemain, son mari Emmanuel constate qu'il ne souffre plus du tout. Et dès le soir, il s'est mis à témoigner de sa guérison devant ses amis, et il continue à le faire. Voilà, lui aussi, sa guérison l'a transformé, et de ses doutes, il est passé au témoignage. Voilà, merci Seigneur. Mais avait depuis longtemps des éblouissements, par exemple pour la conduite de nuit, elle avait l'impression que les voitures étaient toujours plein phare en face d'elle. Suite à une parole de connaissance, le 9 février 2017, qui annonçait la guérison d'une personne ayant des éblouissements, elle a été guérie de ce problème. Voilà. Merci Seigneur pour ces guérisons, pour les autres guérisons que tu as faites, que je dirai la prochaine fois. Merci Seigneur d'être là parmi nous ce soir. Maintenant, nous allons exposer le Saint-Sacrement. C'est Jésus lui-même qui est présent. Nous pouvons avoir confiance en lui, comme Sainte Faustine nous l'a appris. Jésus lui-même va venir au milieu de son peuple. Amen.